Tout passe maintenant vers l'électronique et vers l'Internet et vers un autre type de communication. Ça me paraissait plus simple à l'époque, plus direct, plus humain.
Mon invité aujourd'hui a le tronc solidement planté en France et les racines qui poussent jusqu'en Algérie. Ses feuilles, elles, dialoguent avec Dieu, avec le Dieu de l'islam. Dalil Boubaker est recteur de la Grande Mosquée de Paris et ancien président du Conseil français du culte musulman. Il fut aussi cardiologue et il est violoniste. Je l'ai rencontré à son bureau de la Grande Mosquée un jour de février, un jour où il neigeait sous le minaret. L'orange, le vert et le bleu des éliges, vous savez, ce sont ces mosaïques de faïence colorées, tranchaient avec les flocons blancs. On s'est installé sur les tapis et les coussins orientaux et on s'est servi un thé à la menthe.
Mais sinon, vous connaissez la fable de la fontaine, de l'hirondelle et des petits oiseaux. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu.
Vieille branche chez moi.
Une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, je suis Aude Loriot. Et deux fois par mois, je rends visite à une vieille branche.
Je peux en dire plus long.
Découvrir
de tout de la vie.
Évidemment que c'est important.
Je vous fais rencontrer des femmes et des hommes qui ont traversé les époques. Qu'ont-ils à nous apprendre? Comment voient-ils l'avenir? C'était mieux avant? Vieille branche, c'est le 20e siècle qui chuchote à l'oreille du 21e. Dalil Boubaker est un homme féru de culture et de musique. La conversation a commencé hors micro en parlant de La Fontaine et s'est terminée sur une fable. Notre entretien a fait une sorte de boucle, en somme. Entre les deux, Dalil Boubaker a raconté son histoire avec ce ton des gens qui aiment les récits. Nous avons aussi parlé des questions qui piquent, de la politique d'Emmanuel Macron et de la question du foulard islamique, car il a été souvent reproché à Dalil Boubaker d'être flou sur ce sujet. Bonjour Dalil Boubaker.
Bonjour madame.
Vous êtes né en Algérie, si
oui,
je ne m'abuse, dans
absolument,
une ville qui est sur la côte, tout à fait à l'est du pays. Puis vous avez vécu dans la périphérie d'Alger. À une époque où l'Algérie était un département français, quels souvenirs gardez-vous de cette époque? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette époque-là?
Oui, je suis né en 40, en pleine guerre. La drôle de guerre, novembre, le 18 juin était déjà passé. Mais mon père était professeur à Philippeville, dans un collège de jeunes filles.
Qui est aujourd'hui Skida,
au
nord,
oui,
de Constantine.
Skida, donc rue Skida en latin. Mais cette ville ne m'a pas laissé un souvenir. J'ai dû quitter à 2 ans. Encore vaguement, j'avais l'impression que des petites gamines jouaient avec moi et me prenaient comme dans leurs bras. Un vague souvenir extrêmement
ténu,
imprécis. Et me voilà à 2 ans à ma villa de famille à Alger, en pleine guerre. 41, 42, j'ai vécu, il me semblait avoir entendu des bombardements et qu'on me transportait dans des caves, dans des tas de choses.
Ça, c'est un de vos premiers souvenirs d'enfant.
Ah oui, j'ai des souvenirs très précis de cette période de guerre dans 40 et 44. Et je me souviens en particulier de l'année 44 où mon père... Je ne peux pas faire ma vie sans parler de mon père. Ça, il a marqué pleinement l'homme que j'ai admiré, l'homme qui me manque, l'homme pour qui j'ai eu une vénération, une affection, l'homme, mon modèle dans ma vie, celui qui m'a bien fait souffrir pour aboutir à ce que lui pensait vouloir faire de moi. Il fallait être toujours le meilleur, toujours bien. Et moi, je n'aimais pas tellement ça. Moi, j'aimais m'amuser, j'aimais mon vélo, j'aimais jouer, j'aimais courir dans les champs, etc., de cette ville d'Alger merveilleuse qui a été le berceau de ma prime enfance et qui a été une véritable merveille. J'ai connu des gens remarquables. J'ai connu Madame Jeanbras, notre voisine un peu âgée, dont le mari avait été je ne sais quoi en Indochine, qui avait ramené des meubles chinois dans sa maison et qui avait un piano. Elle m'apprenait mi do ré mi et toutes les premières notes du solfège. Là, la musique a été pour moi une harmonie, a été pour moi une sorte de spiritualité, une sorte de découverte de la beauté de quelque chose de tellement, je ne veux rien vous dire, en dehors de Mozart. Imaginez que les rapports humains soient basés sur des notes de Mozart, des partitions de Mozart, des concertos de Mozart, et surtout des fugues de Mozart. Là, vous avez un aspect d'une beauté qui correspondait aussi à l'environnement de cette ville d'Alger qui a été pour moi ma première découverte de la France, parce que dès 1944, dont je vous parlais, et n'ayant pas de possibilité d'aller à l'école laïque courante, l'école maternelle, nous n'en avions pas, donc on m'a mis chez les bonnes sœurs, carrément. Deux années de bonnes sœurs, ça marque. Ça marque.
En positif ou en négatif?
En grand bénéfice. Elle me respectait, puisque c'était la guerre, donc je mangeais avec tout le monde. Et les jeunes filles, qui étaient beaucoup plus âgées que moi, buvaient du vin, mais me disaient, toi, tu ne boiras pas. Il y a eu quelques éléments où, malgré cela, la gentillesse de ces bonnes sœurs, leur dévouement, leur respect, leur sérieux. Jamais rire, mais une pédagogie qui était véritablement un marquage de l'individu particulier. Je ne me sentais pas dévoyé de ma croyance.
Vous n'avez pas l'impression qu'on cherchait à vous convertir à tout prix?
Sûrement pas, sûrement pas. Par contre, elle m'apprenait à écrire et à lire. Cette vision d'Alger, pour moi, est quelque chose d'inoubliable.
Dans la suite, vous allez entendre que j'insiste et j'insiste pour poser une question à Dalil Boubaker, qui l'esquive à chaque fois. Est-ce que la guerre d'Algérie continue de hanter nos mémoires? Monsieur le recteur semble gêné. Plutôt que de dire si oui ou non la violence et le racisme actuel ont un lien avec la guerre d'Algérie, il préfère clamer son amour pour la France. Comme s'il fallait absolument montrer patte blanche. Et vous avez vécu donc la guerre, vous le mentionniez tout à l'heure, la guerre d'Algérie aussi.
Oui.
Dans cette émission Vieille Branche, j'ai été frappée de voir à quel point cette guerre d'Algérie avait marqué les consciences de plusieurs de mes invités. Et des historiens comme Benjamin Stora disent que la guerre d'Algérie continue dans les têtes, les cœurs, les mémoires. Je voulais savoir si vous êtes d'accord avec ça.
Oui, dès 1954, j'avais 14 ans, et j'ai entendu qu'il y avait... je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait cet ébranlement progressif dans nos vies.
Et est-ce que vous avez l'impression que ces tensions qui sont nées à cette période que vous avez vécue donc entre 1954 et 1957, est-ce que vous avez l'impression qu'elles subsistent aujourd'hui dans les consciences en France, dans la société? Est-ce qu'elles continuent de hanter notre mémoire?
Oui, parce que l'esthétique, j'ai été très sensible au côté esthétique que la France avait apporté à cette ville d'Alger ou à toute l'Algérie que je sillonnais. Mon père m'emmenait un peu partout. Il était né dans le Sahara et tout petit, je faisais des grands traversées de l'Algérie et j'admirais la manière dont la France avait arrangé ce pays avec des routes, avec des villages, avec toute une organisation que j'ai beaucoup retrouvée en France, mais à moindre degré en Algérie, où les choses allaient cependant dans un certain progrès. J'ai vu que l'État français faisait des efforts pour la scolarité. Je suis entré au lycée dans d'excellentes conditions. J'étais même très porté sur les questions littéraires. Moi, je voulais faire une carrière dans
la littérature. Vouliez faire des études de littérature avant
Oui. J'avais des prix d'excellence. Cette culture me convenait admirablement et absolument. Et pour moi, c'était l'essentiel, puisque mon père me poussait uniquement sur les questions de connaissance. Mais ce qui m'a touché, cette différence, que sur le moment, je ne me rendais pas tellement compte, puis j'étais protégé par mon milieu familial ou mon niveau. Mais petit à petit, je voyais qu'il y avait quand même l'injustice qui régnait. Il y avait la souffrance, il y avait l'injustice, oui, et il y avait un conflit qui se crée.
Et ce conflit subsiste, à votre avis, aujourd'hui, d'une autre manière ?
Ce conflit me paraissait pouvoir être possible à ne pas aboutir à une rupture, vraiment. Je pensais que et les Français et les nationalistes algériens finiraient par trouver un juste milieu dans les rapports entre Français et musulmans. Ils n'étaient pas aussi noirs qu'on veut bien le dire. Il n'était pas non plus la panacée ni des uns ni des autres. J'avais de nombreux petits camarades au lycée, juifs ou italiens ou espagnols, mais surtout juifs. Et je n'avais pas l'impression que mes petits camarades juifs avaient tant de moyens qu'on le dit, que c'était un petit peu les petits juifs de Babel-Oued ou de certaines zones où ils vivaient, mais ils avaient des difficultés. Il y avait peut-être des gens que je ne connaissais pas et qui avaient des richesses probablement ignorées, mais dans mon milieu, nous vivions, nous n'étions pas à couteau tiré des uns avec les autres.
Alors, l'Algérie, puisqu'on parle d'Algérie, finance cette institution qui est la Grande Mosquée et le pays contribue à la formation des imams de France. Vous savez que notre président Emmanuel Macron veut un petit peu se débarrasser de l'influence des États étrangers sur les imams de France. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Écoutez, je pense que là aussi, il faut du rythme. Un rythme mozartien, ni trop vite, ni pas assez. Oui, nous irons, nous sommes les premiers à souhaiter que nos imams soient formés en France. Ici même, dans cette mosquée, en 1994, ce n'est pas d'aujourd'hui, M. Pasqua était passé et avait bruyamment réclamé la présence d'imams en France et de France. Et immédiatement, j'ai pris de nombreux locaux de la mosquée pour en faire un institut de formation d'imams. Et actuellement, nous avons 300, 400 étudiants et nous sortons peut-être une cinquantaine de diplômés, puisque ces diplômes sont en même temps fait à l'Institut ici pour la question de l'art, mais en faculté depuis longtemps où j'ai milité pour que la Sorbonne soit le deuxième élément instructif, pédagogique, de formation des imams sur des questions qui ne sont pas enseignées autrement que dans un lieu aussi important que la Sorbonne ou les facultés de l'université française. Donc, ça se fait, mais il y a une période où le nombre de mosquées qui arrive à 2500 aujourd'hui en France nécessite des gens professionnels. Or, ces gens professionnels, ils viennent pour l'instant de Turquie, où les Turcs ne peuvent pas parler, comprendre autre chose que le turc, du Maroc, où la formation au Maroc est un peu particulière aussi, qui ne se comprennent bien qu'entre Marocains. Quant aux Algériens, ils sont les éléments probablement les plus proches de la culture française. Ils ont connu la France. Ils parlent français. Ils ont été formés dans une vision d'aller en France, où ils ont de la famille, où ils ont des amis, où il y a une importante communauté algérienne en France et qui peut se trouver dans la période actuelle avec les autres pays, donc dans une situation de où on a besoin encore de ces imams, mais où petit à petit nos jeunes imams que nous formons ici finiront. Mais attendons,
il faut du temps.
Pas tout de suite.
Il faut du
laisser
temps.
Laisser le temps, oui. Au temps, comme disait M.
Oui, exactement. Et la grande
Mitterrand.
La grande mosquée, c'est une histoire de famille chez vous. On parlait de votre père tout à l'heure, et votre père a été nommé à la tête de l'institution en 1957.
Absolument.
Et vous êtes parti alors avec votre famille en France, vous aviez 17 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre arrivée en France à l'époque ? Quelles étaient vos impressions ? Enfin, en France métropolitaine.
En France métropolitaine. Je connaissais bien la France. En 52 ou 53, j'avais été dans une forme de colonie, mais c'était des prêtres d'Angers qui avaient ouvert une colonie dans le Finistère, à Pont-Croix, exactement, et où j'ai passé 2 mois avec ma sœur et mon frère, mon jeune frère, et nous avions passé vu ce qu'est la France, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire. Vraiment. Vraiment, la manière d'être, la manière de jouer, la manière de parler, la manière de se comporter, la manière d'être respecté. Je ne reconnaissais plus les Français que j'avais connus en Algérie, qui étaient un peu... Bon, c'était la Méditerranée. Là, non. C'était l'ordre, c'était la formation, la justesse, une certaine difficulté aussi d'être... français parce que c'est toujours plus juste, plus adroit, plus précis. C'est un gain de précision dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait qui m'a paru être...
Une exigence, en fait.
Hein?
Une exigence, en fait.
Oui, une certaine exigence d'être. On ne peut pas être... comment dire, de laisser faire ou certaines négligences. Non, le français n'est pas négligent. Et ça, j'ai appris cette rigueur qui m'a beaucoup plu. Je vous assure qu'en partant de la Bretagne, je m'étais mis à pleurer. À 12 ans, que j'avais... ça m'avait tellement marqué. J'ai connu Rohan et j'ai appris plus tard que ma femme était était
auvergnate. Oui.
Donc, j'ai repensé à cette zone du Lyonnais également, en admirant beaucoup les fleuves, la verdure que nous avions là, la gentillesse des enfants. Et parfois une forme de critique, que je ne faisais pas la prière avec eux, que eux avaient leur prière tous les jours, que moi non. Bon, il y avait, mais que ça m'était complètement égal, pensant que bon, chacun a sa religion, mais que j'étais pas forcé d'admettre le côté spirituel de l'autre, mais je lisais comme tout le monde la Comtesse de Ségur et Tilloy, tous les romans qu'on pouvait lire, je les ingurgitais, des classiques du 19e siècle, Maupassant, ou les livres que Gulliver, enfin, toutes tout sortes ça. De littérature. Mais en venant en France, j'ai vu l'intérêt de toutes ces connaissances pour encore mieux se promener à Paris, ou mieux se promener dans la province française, et que personnellement, ça me convenait parfaitement.
La France métropolitaine était liée à la culture, alors.
La culture. Et puis, il y a une gentillesse dans la population française qui cherchait l'intérêt d'un jeune pour le pousser aussi à s'améliorer, à faire des progrès. Il y a une espèce de générosité, n'est-ce pas, qui vous amène à être bien, à faire le bien. C'est très classique en France, où on a une espèce de penchant pour les enfants, comment les aider. Et ça, j'y étais très sensible, très.
Dalil Boubaker est un amateur de culture, mais c'est aussi un scientifique. Il a exercé la médecine à haut niveau comme cardiologue. Dans la suite de l'entretien, il réveille l'ambiance des hôpitaux des années 60, où la tuberculose envahissait l'institution, si bien qu'on ne savait même plus où mettre les malades. Il dit et redit l'importance de la science face à l'obscurantisme religieux, car science et religion ne devraient jamais, selon lui, s'opposer. Et alors après, vous avez fait des études de médecine, puis vous êtes devenu cardiologue à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Et alors, il y a eu récemment plusieurs suicides ou morts inexpliquées d'internes en médecine, je ne sais pas si vous êtes au courant, et des enquêtes de santé mentale sur les jeunes médecins qui ont des résultats assez alarmants avec beaucoup de stress, de burn-out, etc.
Oui.
Et je voulais savoir comment c'était vous à l'époque quand vous étiez étudiant en médecine. C'était aussi des conditions stressantes comme ça?
Non. Nous avions, hélas, un numerus clausus extrêmement limité. J'étais un littéraire, donc il a fallu passer dans une série scientifique et réussir parfaitement dans ce domaine où j'ai découvert véritablement la science expérimentale, Claude Bernard, Pasteur, tous les éléments des études scientifiques de terminale qui m'avaient ouvert, notamment la chimie et la physique, où j'ai pu avoir 16 ans au bachot, et avec la note que j'avais à l'écrit, je l'avais automatiquement à l'oral. Donc, ça a été une découverte, et j'étais à Louis-le-Grand, donc des professeurs remarquables. Je ne suis pas laudatif de tout ce que j'ai vu en France, il y a eu des difficultés, mais grosso modo, si on fait la somme des difficultés et la somme des avantages, je pense que ma vie a été fortement marquée par l'intérêt français de mon existence intellectuelle, spirituelle, artistique, si on peut dire, et même religieuse.
Et vos études de médecine, alors, elles commencent...
La médecine a été pour moi une épreuve. L'épreuve de la mémorisation. Ça, pour moi, J'aurais pu étudier le bottin à l'endroit, à l'envers, en troisième année. C'était fini. J'avais pu où j'étais capable, où je ne l'étais pas. Donc, les examens passés, et j'ai pu entrer dans les hôpitaux et faire ma spécialité, qui a été très difficile aussi, et qui ouvrait sur un monde. À l'époque où je faisais médecine, nous n'étions pas frappés par les problèmes cardiologiques parce qu'on n'avait pas assez de... On faisait quelques opérations, mais sur les valvules ou sur un certain nombre d'interventions circulatoires. Mais ce qui était important, c'était la tuberculose. Dans les années 50, j'étais à l'hôpital Saint-Antoine, mais c'était la psychose que cette maladie, que ce bacille de corps, n'est-ce pas, qui terrorisait véritablement, encombrait vous avez parlé de la Pitié-Salpêtrière, on avait des salles communes encombrées de gens dont on ne savait que faire, et en plus, j'ai eu l'avantage d'aller à l'hôpital de Bicêtre, où Alphonse Boudard avait passé lui-même sa maladie tuberculeuse dans ces pavillons que j'ai...
Rappelons aux auditeurs et auditrices qui est Alphonse Boudard.
Son livre, c'était L'Hôpital. D'accord. L'Hôpital, et il racontait les choses les plus atroces, n'est-ce pas, concernant les tuberculoses pérenniser 2 ans, 3 ans, et qui mettait les familles par terre, entraînait l'alcoolisme, le vin, comme il décrit très bien dans son bouquin sur l'hôpital, et certaines interventions incroyables qu'on faisait pour faire des pneumothorax, pour étouffer la maladie tuberculeuse, et qui mettait des gens complètement à plat. C'était véritablement un mouroir où les traitements étaient extrêmement difficiles, extrêmement aléatoires, jusqu'à, je vous parle de l'histoire de la tuberculose, très tard, en 68-69, seulement on a pu trouver le traitement de la tuberculose, qui était la rifampicine ou la rifadine, qui traitait cette maladie en 2 mois ou 3 mois.
Ce que je voulais savoir, c'est que dans vos livres, il y a souvent des comparaisons entre la biologie et la religion. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que votre formation scientifique a apporté à votre réflexion sur la religion ?
Écoutez, c'est une formation culturelle. Je pense que, du point de vue culturel, le religieux... Je l'avais lu dans l'Aube sans grande part, vous savez, dans ses écrits bouddhistes sur les connaissances curieuses et importantes de certains moines, de certaines. C'est la connaissance de l'être humain. À mon avis, que ce soit dans la science ou dans la spiritualité ou la psychologie, l'être humain est le premier objet, je dirais, d'importance dans la vie d'étude d'un être humain qui a affaire à des êtres humains. On ne peut pas vivre uniquement dans l'introspection de soi-même, qui est très utile pour connaître les autres. Oui, on se dit, mais c'est pas possible, on est comme les autres et nous réagissons comme ça, donc voilà, donc les autres sont comme moi, et ce que j'ai en moi, je le trouve dans les autres. Donc ce qui rapproche avec les autres personnes, parce que nous ne sommes pas tellement différents les uns des autres. Je pensais qu'il y avait des différences dans les races, dans les cultures, dans les... Non. Donc, quand on voit la préhistoire, où on voit l'Australopithèque et depuis que l'homme existe, c'est un mystère.
Et un de vos combats, c'est que l'islam renoue avec ses penseurs rationalistes. Il y a eu une époque où les empires musulmans ont produit de grands scientifiques, très grands scientifiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des grands scientifiques musulmans que vous admirez ?
Bien sûr. Les plus importants sont ceux qui ont pratiqué une méthode quasiment occidentale, grecque. Les héritiers de la médecine grecque, de la médecine gréco-romaine, et ou perse d'ailleurs, ou indienne, ont apporté véritablement une vision logique, rationnelle, dans la connaissance scientifique. Par exemple, dans la médecine, vous avez Rhazès, Avicenne, Averroès, surtout Ibn Nafis, qui a découvert la circulation sanguine bien avant William Harvey en 1628. Donc, nous avons des sommités de médecins.
Tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui vous...
Il y a d'excellents médecins, et j'étais surpris de voir à quel point de nombreux médecins du Maghreb, d'Orient, de Syrie et d'Iran sont capables d'acquérir des techniques, d'acquérir des éléments d'avant-garde dans tous les domaines les plus modernes de la médecine, que ce soit dans le domaine de la PMA, ou dans le domaine de la virologie, ou dans le domaine de la chirurgie, ou dans tous les domaines.
Et vous avez publié en mars 2017 un texte où vous rappelez que les théories scientifiques actuelles sur la création de l'univers et l'humanité sont compatibles avec l'islam. Pourquoi, je me demande, avez-vous besoin de faire ce rappel? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression qu'il y a un regain d'obscurantisme chez les jeunes Français musulmans?
Ah oui, oui. Mon principal ennemi aujourd'hui, toujours, ça a été cette espèce de refus du progrès. Et dans le refus du progrès, c'est ce soi-disant fondamentalisme, ou qu'on appelle la quatrième école de l'islam, le hanbalisme ou wahhabisme, si vous voulez, qui a fait tant de mal à la civilisation musulmane encore aujourd'hui. Il continue à faire des mal avec des gens. Je vois par exemple des jeunes qui sont arrêtés, n'est-ce pas, pour avoir commis des attentats terroristes. Bien sûr qu'ils sont en train de souffrir, mais la question que je me pose, c'est pas de leur souffrance qu'on les, bien sûr qu'on les enferme et que c'est pitoyable, mais pourquoi ont-ils tué? Pourquoi ont-ils fait les gestes qu'ils ont faits, et en conscience, et avec volonté, et avec une recherche personnelle, pour ensuite se trouver eux-mêmes dans la même souffrance de celle qu'ils ont provoquée? Donc, je dis bien sûr qu'il y a une égalité dans le don et dans ce qu'on reçoit, mais pourquoi commencer? Pourquoi commencer? Donc, ça, l'intolérance, la violence vis-à-vis des êtres humains, je ne la comprends pas. Je ne veux pas pénétrer dans cette vision des choses, de la violence vis-à-vis d'autrui. Ça m'horripile, ça me révolte, ça me rend hostile, je dirais, véritablement, à tous ces musulmans qui utilisent cette belle religion, c'est donnée tellement élévatrice, tellement humaniste.
Mais est-ce que vous pensez que c'est lié peut-être justement à un obscurantisme, peut-être qu'on n'enseigne plus assez bien la science? Je ne sais pas. Quel est votre regard là-dessus? Pourquoi vous avez eu besoin de rappeler que les théories scientifiques actuelles sont compatibles avec l'islam?
Écoutez, la théorie de l'évolution, par exemple, sur laquelle je suis 10 000 fois d'accord, l'être humain n'a fait que progresser, évoluer et changer. Mais j'ai trouvé ça aussi dans le Coran, qu'il y a des êtres qui évoluent, qui changent, et que Dieu fait venir et revenir des êtres humains jusqu'à ce qu'il les aime et qu'ils aiment. Pourquoi refuser la théorie de l'évolution? Pourquoi refuser l'univers tel que Copernic l'a énoncé? Pourquoi refuser la connaissance de l'inconscient? Pourquoi la psychanalyse est refusée? Pourquoi toutes ces beautés, je dirais, de la connaissance humaine sont refusées? Parce que les données ou les convictions, n'est-ce pas, ou l'obscurantisme ou l'ignorance sont à l'origine. Alors là, je suis hostile vraiment à cette vision-là. Je ne l'en veux en aucune manière. Et elle me dégrade la manière de comprendre l'islam par cette manière-là.
Il y a un thème qu'on ne pouvait pas ne pas aborder ici, c'est celui de la religion. On a parlé du racisme qu'elle suscite et aussi de la question du foulard qui agite tant les esprits. Et figurez-vous que la réponse de Dalil Boubaker est loin d'être celle que vous attendiez peut-être d'un responsable religieux. Dans les années 70, on parlait beaucoup plus des travailleurs arabes plutôt que des musulmans. Ou alors on employait l'expression travailleurs étrangers. Et vous avez connu cette période.
Oui.
Le racisme était plutôt anti-arabe qu'anti-musulman. Vous avez vécu vous-même cette évolution des mots.
Oui.
Et je voudrais avoir votre témoignage. À votre avis, à quoi est dû ce changement de vocabulaire? Pourquoi on est passé de l'arabe au musulman?
C'est lié au fait colonial. Je me souviens, quand je venais en France, je ne comprenais pas, mais le musulman, ou ce que j'étais, moi, je suis arabe, de famille arabe, par mon père, profondément arabe, le Sahara, par ma mère, plutôt citadine, d'Alger, très moderne, très évoluée, peut-être d'origine turque, peut-être d'origine d'Alger, qui était très raffinée. Donc j'étais ballotté entre les deux visions, l'une quasiment européenne et française, ma mère, et l'autre profondément arabe, avec mon père. Alors, j'aimais bien la langue rude de mon père dans le Sahara, qui était chantante et qui était virile. Et puis, la délicatesse maternelle, dans l'art, elle faisait de la musique, elle était assez européanisée. Donc, j'en étais très fier quand elle m'accompagnait à l'école. Donc,
comment on est passé de ce vocabulaire arabe à musulman?
Quand on arrivait en France, c'était le nord-africain. Je ne comprenais pas le nord-af, que ça voulait dire. Et puis j'ai compris, ah oui, les gens de l'Afrique du Nord, c'était les nord-af. Mais alors, vu d'une façon très négative, très négative. Et j'ai pensé que c'était lié au fait que, étant colonisés, nous étions colonisés, ça diminuait de notre prix, ça diminuait de notre valeur, ça diminuait. Et je me souviens des discussions que j'avais avec mes camarades au lycée d'Alger, en disant que nous pensions que nous avions besoin aussi, dans notre identité, d'une certaine valorisation, de ne pas nous sentir dévalorisés par rapport à nos petits copains de classe, de seconde ou de première, où j'étais, et qui ne m'impressionnaient pas du tout, puisque moi, j'avais le prix d'excellence en français, et eux étaient derrière moi.
Est-ce que c'était mieux avant?
Alors, oui, il y avait moins de complications. C'était plus simple. Il y avait moins de responsabilités à faire. Vous ne pouvez pas faire un pas sans que vous heurtiez ou vous heurtiez à un système de loi ou de droit. Même aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas fumer ou ouvrir votre portable dans une voiture. Donc, il y a une vie de plus en plus limitée, de plus en plus restreinte, étriquée. Et ce que j'aimais, c'était la liberté. La France est un pays de liberté et vous aidez à être encore plus libre. Et c'est cette attitude
qui s'est perdue un peu, alors j'ai l'impression, à vous entendre.
Comment ?
Que cette attitude s'est un peu perdue, j'ai l'impression,
oui,
à vous entendre.
Oui, elle s'est un peu étriquée peut-être à cause de la situation économique, elle ne me semblait pas aussi grave que maintenant. Aujourd'hui, vous allez dans un hôpital, c'est terrible. Avant d'entrer, d'avoir accès à la médecine, etc., les institutions, la poste, les magasins, enfin, vous voyez, nous voyons un changement dans nos domaines où tout passe maintenant vers l'électronique et vers l'Internet et vers un autre type de communication. Ça me paraissait plus simple à l'époque, plus direct, plus humain. Plus humain et beaucoup moins technique que maintenant.
On voit se développer une version assez agressive de la laïcité. J'aimerais parler de la laïcité avec vous. Cette version-là prône de nouvelles interdictions de signes religieux, comme à l'université, à la plage. Et certains sociologues ou philosophes parlent de laïcité identitaire ou de fondamentalisme laïque. Qu'est-ce que c'est pour vous, la laïcité ?
Pour moi, la laïcité, quand on a fait un petit peu de philosophie qui vous indique au XVIIIe siècle, avec Kant, vous avez obtenu enfin une explication philosophique de la morale et rationnelle de la morale. La morale, auparavant, avant Kant, c'était ce qui plaisait à Dieu, ce qui rapprochait du divin, des prescriptions, des textes, de la religion, etc. Mais avec Kant, c'est totalement différent. Avec Kant, ce n'est pas ce qui vous rapproche ou vous éloigne de Dieu. Non, c'est ce qui vous rapproche de l'universel. Si votre assertion a un caractère universaliste, valable pour l'homme et pour toujours et partout, là, vous êtes dans le bien. Sinon, non. Donc cette vision, elle m'a marqué.
La laïcité, comment on la définirait ?
Entre dans le domaine de l'universel. Pour moi, c'est une valeur universelle, universaliste, valable pour tout le monde, pour tout être, partout et toujours. Donc, elle est une valeur du bien. Elle est morale. C'est là. Moi, si je trouve une morale dans la laïcité, elle est kantienne.
Mais est-ce que c'est l'interdiction des signes religieux ? Est-ce que c'est la cohabitation avec les religions et les non-religieux ?
Il ne faut pas que la religion se heurte à la vision rationnelle de la vie. La laïcité, sans l'appeler laïcité, c'est une vision raisonnable, c'est une vision strictement humaniste, une vision qui n'exclut personne, qui ne donne à personne plus qu'à l'autre en raison de sa croyance ou en raison de ce qu'il veut. C'est du subjectivisme. On parle du subjectif vers quelque chose de beaucoup plus raisonnable, rationnel et complètement conforme à la non-discrimination des individus. C'est humaniste.
J'ai lu dans un livre qui date un petit peu, que vous avez écrit, que vous étiez opposé à ce que le prêche du vendredi soit fait en français. Est-ce que c'est toujours le cas ?
De ma manière de voir, oui, c'était ma vision de l'islam parce que j'avais toujours participé à des prières où je ne voyais pas autre chose qu'une prière prononcée en arabe, et je me demandais quel mot français pourrait remplacer, traduire les phrases du Coran en arabe, qui sont déjà assez difficiles à comprendre pour le musulman qui ne parle pas la langue classique du Coran, comment lui mettre ça en langue française. Je sais qu'en anglais, certains termes se traduisent plus facilement parce qu'il y a une langue anglaise classique qui est un peu utilisée, beaucoup utilisée dans le religieux.
Et alors aujourd'hui, vous seriez pour qu'on fasse le prêche en français ?
Ce qu'on fait maintenant, me paraît très bien. L'imam peut mélanger les deux aspects sans se sentir dépaysé. Le dépaysement me paraissait ma crainte ultime. Mais ça ne le dépayse pas. J'ai trouvé des imams extrêmement compétents à traduire en français et en arabe, les deux ou un seul, un prêche, un sermon qui passe très bien, au moins dans le sermon. Et puis la prière peut se faire dans les termes convenus. Donc je pense que ça fait partie de cette vision, je l'espère, qui sera celle de l'avenir d'un islam français, parce que il faut du français, de l'arabe, et il n'y a rien d'incompatible. Il n'y a rien d'incompatible à l'expérience.
En parlant d'incompatibilité, est-ce que le port du foulard pour les femmes est une obligation du Coran ?
Alors celle-là, je le dis carrément, je n'ai jamais été partisan du foulard. J'ai reçu des tas de jeunes filles qui me l'ont reproché, j'ai reçu des tas de critiques pour cela. Tout d'abord, bon, je vous ai dit que ma famille maternelle d'Alger, qui était une famille très classique, se promenait à Alger, n'avait pas de foulard. Elles en avaient quelquefois, oui, dans des circonstances particulières, mais dans la vie habituelle, nous avions, mes sœurs, ma mère, toute ma famille, une présentation tout à fait conforme à celle de l'Europe. Et je considère que c'est la présentation la plus moderne, la plus adaptée, la plus compatible avec ce que désire faire la femme, c'est-à-dire qu'elle soit chez elle, qu'elle sorte ou qu'elle voyage ou qu'elle emmène ses enfants à l'école ou ceci, ou qu'elle les aide dans leur vie scolaire ou alimentaire ou quel que soit. C'est beaucoup plus pratique pour elle de vivre comme elle est sans qu'on la somme avec des vêtements complètement à la limite délirant, le burqa. Vous imaginez que je serais, moi, partisan d'un vêtement aussi ridicule, aussi incompatible avec nos climats et avec nos visions, même avec l'islam. Ça n'est pas de
mais
l'islam.
Mais le simple voile, donc, ce n'est pas une obligation du Coran, selon vous?
Non, l'islam, le verset, nous le savons, est venu au prophète pour protéger ses femmes lorsque l'une était sortie pour ne pas attirer l'attention des autres. Je considère ça comme ça, comme un fait de la vie du prophète et de sa vie, comment dirais-je, familiale, matriarcale.
Donc c'est lié à un contexte historique, finalement.
C'est un contexte historique. Historique, ce n'est pas du tout le bon Dieu, bon Dieu. Mais laissez-le tranquille, celui-là, et qu'on le laisse tranquille.
Et est-ce que, justement, il n'est pas de votre responsabilité et de la responsabilité des imams de France ou en France d'expliquer que la pratique du port du voile est liée à des temps anciens où l'égalité des sexes n'était pas la même?
Mais bien sûr. Mais ça, c'est infiniment difficile parce que vous avez parlé des Arabes, etc. Mais à partir du moment où les difficultés dans les banlieues et dans les cités, etc., n'avaient pas de traduction ni de solution laïque ou de solution économique, alors là sont entrées donc toute cette fameuse quatrième école, n'est-ce pas, qui a islamisé tous les problèmes. Et on a le professeur Harkoun qui a très très bien et étudier ces phénomènes-là, ou le wahhabisme, la quatrième école de l'islam, qui n'est pas la nôtre, celle du Maghreb, ni celle des Turcs, ni celle de l'Égypte, ni celle de personne, mais c'est une école que même aujourd'hui, l'Arabie, où a sévi cette école, est en train de refuser et de refouler, parce que c'est normal qu'aujourd'hui, on ne puisse plus vivre comme Abdel Wahhab, ou Taymiyyah, ou Ibn Hanbal, au 4e ou 6e siècle, n'est-ce pas, de l'ère chrétienne. Sûrement pas. C'est une rétrogradation, et je suis extrêmement désireux que ça ne se passe pas, en particulier en France. La France n'est pas faite pour avoir sur son sol une religion archaïque. Tout de même, on n'est pas dans un domaine archaïque. C'est le pays, n'est-ce pas, où il y a une culture, où il y a tout ce qu'on veut pour rendre l'être humain heureux. Ne compliquons pas la vie à perturber ce pays avec des innovations, n'est-ce pas, qui sont là que pour créer des problèmes.
Alors, certains disent que vos jours à la Grande Mosquée de Paris sont comptés. J'ai lu ça. Rassurez-moi, vous n'allez pas partir bientôt. Rassurez-moi, vous n'allez pas partir bientôt de la Grande Mosquée.
Écoutez, s'il ne s'agit que c'est que deux mois, mais il y a longtemps que je serais parti. Vous imaginez bien, pensez-vous. Non, c'est une situation qui dépend de moi et qui ne dépend pas de moi. Si ça ne dépendait que de moi, croyez-moi, j'irais ailleurs et vous pourriez longtemps courir pour que je ne revienne pas dans une aventure.
Pourquoi ? Parce que c'est épuisant ? Parce que vous avez envie d'autre chose ? Parce que vous avez...
Mais non, mais parce que je trouve que j'ai transmis, que j'ai donné ce que j'ai pu et qu'un être humain a droit aussi à sa retraite, a droit... Je vous ai dit que j'aime beaucoup d'autres choses que la fonction que j'exerce. Je pense que le monde peut offrir une existence où on se libère un petit peu de tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant ces périodes où on a été, on a eu
des responsabilités.
Des responsabilités, un véritable uniforme, n'est-ce pas, où on est dans un cadre.
Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir vieux ?
Pas spécialement, en raison de mon élément cérébral. J'estime que, j'ai quelques... pas tout à fait la même agilité ou la même vélocité ou la même capacité mnémotechnique. Mais je pense que mon cerveau est encore apte à dire ce que je pense, à étudier, surtout je continue. Et c'est ça qui m'a peut-être permis cette longévité cérébrale. Pour moi, on ne vit que dans le cerveau. Si le cerveau marche, tout le reste est secondaire. Je vous assure, si le cerveau peut écouter un morceau de Bach, de Mozart ou de Mendelssohn en y trouvant les rythmes et la musique qui vous convient, là, vous avez toute l'essentiel de votre être vivant. C'est votre capacité cérébrale.
Et nous parlions, et c'était très agréable, avant d'enregistrer cet entretien de La Fontaine, et vous m'avez cité ce vers « Avez-vous perdu le temps d'aimer ?» Alors, je vais vous poser la question à vous. Avez-vous perdu le temps d'aimer ?
Écoutez, ça a été l'une des fables que j'ai étudiées à l'âge de 14 ou 15 ans. J'étais en troisième. Et nous avions un professeur qui était très fin dans le domaine de l'âge, de l'être humain, et notamment de La Fontaine et des classiques. Mais on ignorait que dans cette période du XVIIe siècle, il y avait un lyrisme dans les fables de La Fontaine, et ce lyrisme-là me paraît d'une authenticité absolue.
Mais vous esquivez un peu ma question.
Non. Donc, ai-je passé le temps d'aimer ? C'était sa question princeps. Dans le rêve de l'habitant du Mogol, voilà, j'ai retrouvé son vers « Solitude où je trouve une douceur secrète ». Solitude, etc. Ça commence par « Solitude où je trouve une douceur secrète ». C'est tout La Fontaine. Et à la fin de sa
fable,
développement, il dit « Ai-je passé ?» Alors, il critique un petit peu toute la vie qu'il a pu faire, et il termine « Ayant vécu sans soin, je mourrai sans remords. » C'est la conclusion de cette fable. Il pose des questions fondamentales. Il trouve la douceur de la solitude. Oui, où je trouve une douceur secrète. C'est-à-dire quelque chose d'heureux. C'est ainsi quelque chose d'autre et que les gens ne connaissent pas. On fait du bruit. Non, mais solitude, je trouve une douceur secrète. Oui. Est-ce que, malgré tout, dans cette solitude qu'il ne partage pas, ai-je passé le temps d'aimer ? Est-ce que la présence d'un être humain est devenue pour moi quelque chose de secondaire ? C'est ça. Est-ce que je n'ai plus... Quand on est jeune, oui, on a besoin d'échanger et d'avoir une proximité. Mais là, dans cette solitude... C'est pas une solitude égoïste, c'est une solitude d'un bonheur où on arrive peut-être à se passer aussi de l'amour, aussi d'un autre être. Pourquoi je parle de La Fontaine ? Ça, peut-être que quand on vieillit, on aime bien ces vérités premières de l'enfance, et elles reviennent dans ce qu'elles ont d'éternel et de vraiment de spirituel.
Vous pensez à la mort ?
Ma vie ne vaut pas tant de soins, mais qu'elle ne terrorise pas. Combien de fois j'ai été menacé par tous les théories de la création depuis le Fils et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres, que ça me paraît... Et alors, je passerai de la vie à la mort, mais que vienne cette mort, pour qu'elle vienne, elle est attendue avec une curiosité, oui. Je suis curieux, et même quelquefois impatient dans mon espoir qu'elle ait la porte ouverte sur connaître tous ceux qui ont disparu. Pour moi, la mort, c'est sans doute peut-être une illusion, mais de rencontrer tous ceux que j'ai perdus, tous ceux que j'ai, qui m'ont laissé une trace que je n'accepte pas de ne plus les revoir, mais peut-être la seule chance de revoir toutes ces personnes-là, c'est peut-être dans l'après-vie. J'y crois. C'est ma seule manière d'adhérer à la vie religieuse, c'est de croire qu'il y a au-delà de notre existence quelque chose d'autre et une rencontre, de nouvelles retrouvailles. Pour moi, c'est des retrouvailles. Vraiment, vraiment, vraiment.
Merci beaucoup, Dalil Boubaker.
Mais je vous en prie.
Merci, Dalil Boubaker. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes animée par Aude Loriot, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, préparation et prise de son par Marine Rowe, montée et mixée par Laurie Galligani. Vous pouvez retrouver Vieille Branche sur Twitter, _vieillebranche, pour Instagram c'est vieillebrancheNE, et sur Facebook, Vieille Branche Podcast. Et bien sûr, on serait super heureux que vous vous abonniez à l'émission. sur SoundCloud par exemple, ou bien Deezer, sur Stitcher, ou encore Apple Podcast. Vous pouvez aussi y laisser des étoiles et nous écrire quelques mots doux.
À bientôt dans Vieille Branche.